Le titre de notre propos est énigmatique. Il est extrait du livre de la Genèse, au chapitre 37 et au verset 2. Voici l'histoire de la famille de Jacob, Joseph, etc. Bon, on va quand même lire les quatre premiers versets de cette histoire, bon, histoire précisément de savoir où on est, mais on n'ira pas plus loin. Donc, Genèse 37. Jacob s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bilha et de Zilpa, femmes de son père. Il leur rapportait leurs mauvais propos. Jacob aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement, etc. Nous n'étudierons pas le détail de ce texte aujourd'hui. Nous commencerons à le faire la prochaine fois avec l'ensemble du chapitre 37. Puisque, en fait, nous entamons ici une série d'études sur l'histoire de Joseph. Ce sera donc plutôt, ce matin, une introduction à l'ensemble. Et quelle introduction trouver à la vie d'un personnage? D'abord, sans doute, dans l'histoire de ceux qui ont introduit cette personne dans la vie, c'est-à-dire ses parents. C'est ce lien qui est établi ici. Joseph est issu de Jacob. Ce lien suggérerait-il alors, dans l'histoire de Joseph, une espèce de continuité de la vie de Jacob? Je vous propose donc une modeste réflexion sur la succession des générations. Dans l'idée toute simple de notre propre histoire personnelle, histoire familiale, qui déborde l'histoire stricte de notre propre vie, elle-même limitée par la naissance d'un côté, la mort de l'autre. Notre histoire trouvant des racines dans ce que nos parents ont été, ont vécu, ont fait, notre histoire produisant des effets dans ce que sont ou seront nos enfants. Nous chercherons donc quelques éléments de réponse dans l'histoire de Jacob, le père, et dans l'histoire de Joseph, le fils. Dans ce qu'a vécu Joseph, dans ce qu'il a été, y a-t-il une source qu'il faut rechercher dans le caractère et dans les entreprises de Jacob? Est-ce que Jacob, menant la vie qu'il a voulu vivre, a orienté la vie de Joseph? C'est en tout cas ce que semblent nous suggérer les premiers mots de l'histoire, que j'ai volontairement extrait du contexte pour le rendre plus visible. Voici l'histoire de la famille de Jacob, Joseph. Et suit l'histoire de Joseph. Assurons-nous ici de bien comprendre le mot qui a été traduit par « histoire ». Histoire, c'est le terme qui est utilisé par la Bible du Semeur, d'autres aussi. D'autres traductions disent « voici la lignée de Jacob ». D'autres, voici la postérité de Jacob. Et plus concise encore, c'est la Taube qui traduit comme ça, voici la famille de Jacob, pas l'histoire de la famille, voici la famille de Jacob, Joseph. Donc, le sens commun à toutes ces traductions est donc bien celui de la continuité. Engendrement, descendance, postérité, déroulement d'une histoire familiale d'une génération à l'autre. Alors il nous faut remarquer ici quand même un triple étonnement. Premier sujet d'étonnement, cette présentation de Joseph comme étant l'histoire de Jacob n'est pas un cas isolé. Tout le livre de la Genèse est construit comme ça. Il comprend plusieurs grandes sections, le livre de la Genèse, la première étant bien sûr, vous le savez, l'introduction traitant de la création. Mais ensuite, chaque section est annoncée par la même formule. Voici l'histoire de la famille de. Alors, Adam, Noé, fils de Noé, Sem, Abraham, il y en a 10 comme ça. Étonnement encore par le côté énigmatique de cette présentation. Le plus souvent, en effet, l'histoire qui est relatée dans une section, ce n'est pas celle de l'individu qui est mentionné dans son titre, c'est celle de ses descendants. C'est ici le cas. Voici l'histoire de la famille de Jacob, et vous attendez à quoi après ça? Eh bien non, ce n'est pas l'histoire de la famille de Jacob qui suit, c'est l'histoire de Joseph. Ainsi pour Isaac, son père, Genèse 25, c'est dit comme ça. Voici l'histoire de la famille d'Isaac. Et qu'est-ce qui remplit les chapitres qui commencent comme ça? Il y en a une bonne dizaine. C'est pas l'histoire de la famille d'Isaac. C'est celle de Jacob. Bon, une manière probablement évidente à saisir, c'est celle de la continuité d'une génération à l'autre. Étonnement, enfin, Joseph. C'est pas le seul enfant de Jacob. Comme Jacob, c'est pas le seul enfant d'Isaac. Et tous les autres alors? Il conviendra donc de s'interroger sur cette continuité affirmée. Quelle continuité? En quoi y a-t-il continuité? Quel fil relie l'un à l'autre? En quoi Joseph serait-il la continuation de Jacob? En quoi Jacob se continuerait-il en Joseph? Au point qu'il y aurait quasiment confusion entre les deux. Voici l'histoire de Jacob, Joseph. Alors on va mener l'enquête. On va s'intéresser à l'environnement familial, aux événements de la vie, aux comportements, en survol, bien entendu. Quand on nous demande de parler de notre vie pour faire connaissance, pour témoigner d'ailleurs souvent, je crois que le plus souvent, on commence par la famille dans laquelle on est né. On évoque peut-être l'influence des parents, bonne ou mauvaise, conduisant à une véritable dette de reconnaissance à leur encontre, ou au contraire, à des regrets, des souffrances vécues, parents divisés, séparés, voire parents inconnus, Et on nous raconte quelquefois ces histoires-là de personnes totalement désespérées de retrouver, de les retrouver, au moins de savoir ce qui s'est passé. Et puis, les parents, premier modèle que l'enfant devenu adulte reproduira ou tentera au contraire de s'en démarquer, je ne me ferai pas ici psychologue. Mais l'idée d'une continuité générationnelle me semble naturelle. On le confirme nous-mêmes, je pense, comme une évidence dans l'expérience qu'on a pu avoir ou qu'on a en tant que parents. Nous avons légitimement voulu marquer leur vie de notre influence dans ce que nous estimions devoir être bon pour eux, parce que bon pour nous, et en particulier, bien sûr, dans la volonté, le souci, le bonheur de leur transmettre l'Évangile. Quand on fait un retour dans notre passé, on va souvent chercher les albums de famille. Exemple chez nous, mettez côte à côte deux photos, celle de ma grand-mère paternelle, celle de notre fille Priscille. Toutes deux jeunes adultes, quasiment la copie l'une de l'autre. Une trace de continuité à la quatrième génération. Alors bien sûr dans la ressemblance physique, mais pas que. Aussi dans le visage qui révèle quelque chose du tempérament. Le regard, le front qui suggère un caractère déterminé. Eh bien c'est exactement ce que la vie confirmera chez l'une et chez l'autre. Ah, vous ne vous attendiez pas à ce que je vous sorte une photo de l'album de Jacob, hein ? Bien sûr. Mais son histoire est une description de son caractère. Alors, un brin d'histoire. Donc, pour y rendre visible un des caractères dominants de l'homme. Nous sommes en Mésopotamie. Alors, la carte de la Palestine, vous la voyez, un rectangle vertical le long de la mer. La Mésopotamie, c'est au nord, 600 kilomètres au nord. C'est pas à côté, hein. Là, en Mésopotamie, Jacob et Rachel y sont mariés depuis quelques 20 ans. Rachel est une fille de ce pays, où son père, un certain Laban, élève des troupeaux. Jacob, lui, en fait, vient donc de loin. Il a fait ses 600 kilomètres, lui, depuis Canaan. Certes, la Mésopotamie n'est pas une terre étrangère à la famille de Jacob. C'est même le pays de ses ancêtres. Lorsque Dieu a appelé son grand-père, Abraham, à le quitter pour le conduire où ? En Canaan, pays promis pour une postérité infinie, vous vous souvenez, les étoiles, les grains de sable, etc. Que fait donc Jacob ici, loin de Canaan ? Eh bien, il a entrepris simplement de sauver sa vie. Il a trompé son frère l'a menacé de mort, il est parti. Et depuis, Jacob galère dans la famille de sa femme. 7 ans de travail en guise de dot pour l'obtenir de Laban. Et Laban le trompe, il lui donne à la place de Rachel la fille aînée. il lui donnera aussi Rachel. Mais 7 ans encore, mon gars, à bosser pour moi. Lorsqu'enfin il sera à son compte, Jacob, il jugera prudent de partir. Le succès de son entreprise, en effet, a suscité une dangereuse jalousie. Alors, retour enfin en Canaan, réconciliation avec son frère sur le chemin du retour. Joseph a 6 ans. Alors Jacob, quel caractère! Il y a un mot, il y en aurait mille probablement pour des personnages de cette envergure, mais il y en a un mot qui me semble bien convenir, c'est acharné. Acharné avec tout ce qu'il y a de négatif dans l'entêtement. Acharné, Jacob, à mener sa vie comme il l'entend. Il combine, il trafique, il ne s'interdit rien pour arriver à ses fins, il va jusqu'au bout, quitte à devoir fuir pour sauver sa vie. C'est-à-dire que quand il fait ça, qu'il débute sa vie, ce sont alors des années de divers conflits qui l'attendent et qui devra vivre. Acharné encore, Jacob, mais cette fois, à aimer. C'est le bon côté de l'entêtement. Il est capable d'un attachement que rien ne rompra jamais. Ainsi son indéfectible amour pour Rachel. 14 ans de travail pour elle. 14 années dont le texte témoigne par ces mots, elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ouais. Attaché aussi, enfin, Jacob à Canaan. Genèse 30, voici ce qu'on lit. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi maintenant retourner chez moi, dans mon pays. » Voilà, en gros résumé pour Jacob, passons à Joseph. Alors, on verra sa vie, puisque c'est une série dans le détail, mais vous la connaissez suffisamment, je crois, pour que je me contente ici de quelques traits qui vous sont connus. Sans perdre de vue notre idée, nous sommes à la recherche de la continuité de Jacob qu'on trouverait en Joseph. Alors, que trouvons-nous? Juste quelques points de comparaison. Le pays, c'est en Canaan, pays promis, qu'il était destiné, Joseph, bien sûr, avec son père. Que se passe-t-il pour lui dès sa jeunesse? Le voilà envoyé pour toute sa vie. Où ça? En Égypte. La fonction. Il serait berger comme ses frères, Joseph. Il va commencer, vous le savez, par se trouver esclave, prisonnier, pour finir à l'égal du pharaon. Ouh. La vie familiale. Avec l'amour de sa vie, comme Jacob avec Rachel, non? Non, sa femme? On lui en donnera un jour. Ça sera un cadeau du pharaon. Ça se pratiquait, hein? Le tempérament. Enfin, le tempérament surtout. Autant Jacob a combiné, commençant par tromper son père, autant Joseph a subi les combines de tous les autres, à commencer par celle de ses frères. Joseph, c'est Jacob à l'envers. Il commence par obéir, Joseph. Il a 17 ans quand Jacob l'envoie dans la gueule du loup. Il y va, et on sait ce que ça va donner. Hein. Et de tout ce qui va se passer à partir de là, des années durant, Joseph, il n'a rien réfléchi, il n'a rien prémédité, il n'a rien combiné, il n'a rien voulu. Il a subi, Joseph, il a subi, il a subi. Limitons-nous à ces quelques traits. Ils sont suffisamment nets, me semble-t-il, pour exclure toute trace de continuité, tant dans les circonstances, tant dans le style de vie, que dans le caractère. Voici l'histoire de Jacob. Joseph, nous mettons là un point d'interrogation. Certes, Joseph, il est bien le fils de son père. C'est écrit sur son acte de naissance, sur sa carte d'identité, sur son permis de conduire. Ah. Le permis de conduire les chariots égyptiens. Hein. Encore que, avec tous les serviteurs qu'il a fini par avoir, il n'a pas dû faire beaucoup d'heures de conduite. Hein. Joseph. Où donc trouver la moindre trace de continuité pourtant suggéré par nos textes. Nous sommes ici au centre de notre propos. C'est que cette histoire, c'est pas seulement une histoire, c'est la parole de Dieu. Et c'est pas seulement une histoire d'homme telle que Jacob, ou Joseph, c'est quoi alors? C'est l'histoire de Dieu dans la vie de ces hommes. C'est l'histoire de ces hommes accueillant Dieu dans leur vie. C'est l'histoire de Dieu dans la vie de ces hommes. C'est l'histoire de ces hommes accueillant Dieu dans leur vie. Alors, reprenons-les tour à tour pour percevoir mieux cette réalité. Jacob d'abord. Jacob, il a voulu une chose dès sa jeunesse. Il a voulu la bénédiction de Dieu sur sa vie. Alors allant jusqu'à croire qu'il pouvait l'obtenir par ses manœuvres, etc. Il la voulait. Jacob, un jour de fuite précisément, à cause de ses fautes. Dieu l'arrête sur la route. Dieu se révèle à lui, Genèse 28. Et qu'est-ce qu'il entend de la bouche de Dieu? Écoutez ça. Je suis l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, son grand-père. Le Dieu d'Isaac, son père. Et il lui fait les mêmes promesses. Cette terre, je te la donnerai. Ta descendance, aussi nombreuse que la poussière de la terre. Je serai avec toi. Je te garderai. « Je te ferai revenir », il dit ça au moment où il est en train de s'enfuir. « Je ne t'abandonnerai pas. » Ce ne serait pas la continuité, ça? Et tournant décisif, enfin, dans la vie de Jacob, bien longtemps après, il lutte encore, Jacob, il lutte contre Dieu. Il lutte de toutes ses forces. Mais de toutes ses forces aussi, il s'accroche à lui pour réclamer sa bénédiction. Genèse 32, voici ce qu'il dit. « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » Indépendamment de tous ses mensonges, indépendamment de tous ses errements, il le sait, il le veut plus que jamais, Jacob. Il ne saurait vivre sans la présence de Dieu. Revenons à Joseph alors. Dans cette situation où ce sont les autres qui gouvernent sa vie, où il est le jouet de ses frères, et puis d'autres ensuite, dans cette situation où tous les vents lui sont contraires, Joseph, il fait une découverte que nous verrons dans la suite régulièrement affirmée. Exemple, Genèse 39, par ces simples mots que nous répète le texte plusieurs fois. L'Éternel fut avec Joseph. C'est-à-dire pour lui la découverte dans sa vie, à ses côtés, de la présence de Dieu, du Dieu qui bénit, du Dieu qui soutient, du Dieu qui maîtrise, du Dieu qui sauve. Elle est là, la vraie continuité de Jacob à Joseph. Elle est dans la présence de Dieu dans leur vie, présence à l'un et à l'autre offerte par Dieu, pleine d'avenir, pleine de promesses. La continuité, elle est dans la présence de Dieu, voulue, accueillie par l'un et l'autre avec reconnaissance. La continuité entre les générations, elle est là. Elle est là seulement. Elle est dans l'œuvre de salut que Dieu poursuit encore aujourd'hui dans notre monde. Elle est dans son envie d'accorder à quiconque les bienfaits de sa présence, pour œuvrer dans sa vie. Elle est la continuité dans notre détermination à l'accueillir favorablement, à le servir malgré toutes nos défaillances. La continuité, elle est dans l'accueil favorable que nous pouvons faire à son invitation, dans notre choix de marcher sur le chemin qu'il a préparé pour nous. Il nous faut la bénédiction de Dieu. Il nous faut la grâce de Dieu. Il nous faut le pardon de Dieu. Il nous faut les directives de Dieu. Il nous faut entrer dans le plan de Dieu. Parce que, au bout du compte, rien ne compte, rien ne vaut, rien ne dure que ce que Dieu peut accomplir dans notre vie. Une autre lignée nous est offerte, autre que celle de la généalogie humaine. Voici la postérité de Jacob, imaginez qu'on nous ait chargé de continuer la phrase. Ben, nous aurions dressé la liste des enfants, puis la liste des fils et des filles de ces enfants, et puis nous n'aurions rien fait d'autre que de souligner l'existence passagère de chacun. C'est dans la lignée de l'éternité qu'il faut s'inscrire. C'est aussi par une naissance qu'on dit nouvelle, qu'on y vient. C'est à une autre famille qu'on s'intègre, celle des enfants de Dieu. Celle qui nous fait remonter à Joseph, à Isaac, à Abraham, par une histoire qui nous est commune. Pouvant encore, aujourd'hui, compter avec eux les étoiles, les grains de sable ou les grains de poussière. Parce que cette histoire, cette famille, cette lignée, cette postérité n'a pas encore atteint son terme. Conclusion. Nous nous mettons à rêver. À rêver que pendant le temps, le petit temps de notre passage sur la terre, les deux lignées, c'est-à-dire nos deux familles, l'une humaine, l'autre spirituelle, se juxtapose, se superpose au point de ne faire qu'une. Depuis les grands-parents jusqu'aux petits-enfants, chacun de la famille et aussi de la famille de Dieu. Chacun dans la lignée terrestre qui s'éteint et dans l'éternel avenir qui s'ouvre devant nous. Ce rêve serait-il un rêve de pure illusion? Serait-il le rêve inaccessible, impossible? Nous avons le bonheur de répondre non. Parce que ce rêve peut prendre forme dans la réalité de la vie d'aujourd'hui. Parce que ce rêve, c'est aussi le rêve de Dieu. C'est la volonté de Dieu, mise en œuvre par son plan de salut, rendu possible par le sacrifice de Jésus, qui couvre l'histoire d'un bout à l'autre du monde, et qui peut se réaliser dans le petit bout de temps que représente notre histoire terrestre, personnelle. Notre temps de vie, c'est le temps du possible. Parce que venir dans notre vie, Dieu le veut. Parce que l'accueillir dans notre vie, nous le pouvons. C'est ainsi que ce rêve devient témoignage. Le temps de notre existence terrestre, c'est le temps de notre influence possible, en premier lieu, sur ceux qui sont les nôtres. Et c'est ainsi que ce rêve devient aussi prière. Notre prière journalière. Notre temps est celui de l'intercession. Seigneur, nous qui savons l'amour que tu portes à chacun de nous, nous te prions pour que, pour chacun de ceux qui nous sont les plus proches, veuille œuvrer encore dans leur vie, afin qu'aucun d'eux ne reste perdu, mais qu'ils soient chacun sauvés. Amen.